en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mesdames, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, merci tout d'abord, cher Michel, de la confiance que vous me faites et des propos que vous avez prononcés. Je dois pourtant vous dire que votre titre m'effraie un peu, quand même. Comment réduire drastiquement ? C'est le drastiquement qui me plonge dans un peu de perplexité. D'autant plus que je dis tout de suite, je n'ai pas la recette miracle. Je vais essayer, modestement, de vous faire partager quelques idées. J'ai accepté, pour une raison, cher Michel, c'est que je pense que nous partageons tous les deux, et certainement avec la majorité d'entre vous, l'idée que cet échec massif que nous connaissons aujourd'hui est plus qu'un problème individuel. C'est bien sûr une somme de difficultés individuelles, mais c'est globalement un problème pour le pays. C'est un facteur qui pèse très très lourd, je pense. C'est un des facteurs qui aujourd'hui pèse lourd, je dirais, dans les capacités de notre pays à retrouver un chemin de croissance qu'il a un peu perdu. Alors je vous le dis, je n'ai pas la recette miracle. Mais je peux essayer au moins, dans le temps qui m'est imparti, d'une part, d'essayer de vous faire partager ce que je crois le mieux maîtriser, c'est-à-dire le bilan. Où en sommes-nous ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? C'est beaucoup plus compliqué. Et essayer de tracer devant vous quelques perspectives de choses qui pourraient, sinon réduire drastiquement, le tout est de s'entendre sur ce que veut dire drastiquement et sur la durée qu'on se donne, mais en tout cas, comment on pourrait incontestablement améliorer les choses. Donc deux parties, bilan et perspective, classique. Bilan. Si je vous dis que notre école ne va pas bien, vous me direz que ce n'était pas la peine de m'inviter pour dire ça. Je pense que c'est quelque chose qui est certainement partagé par tous ici présents. Ceci étant, j'ai envie de dire quand même deux choses. L'école va peut-être moins mal que parfois on aurait tendance à le penser au travers d'un certain nombre de, je dirais, de médias. Je n'aime pas l'expression, et je pense que vous ne l'aimez pas plus que moi, mais en ces périodes de French bashing, comme on dit, il est de bon ton de penser qu'on a une des pires écoles du monde, après avoir eu, semble-t-il, la meilleure. Je pense que nous n'en sommes pas là, et quand on regarde les pays qui sont comparables aux nôtres, on n'est pas si mal placé que ça. Mais par contre, on va beaucoup plus mal que l'idée qu'on se fait et certainement que ce qui serait nécessaire, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, à une évolution plus positive. La prise de conscience est relativement récente, d'ailleurs. La prise de conscience réelle, je dirais, une quinzaine d'années, 15-20 ans. D'ailleurs, mesdames, messieurs, la notion d'échec scolaire est une notion relativement récente. Je crois que ce n'est pas faire injure à qui que ce soit de dire que nous appartenons à des générations où il n'y avait pas d'échec scolaire, au sens où la population scolaire était divisée en partie, il y avait ceux qui réussissaient, ceux qui ne réussissaient pas. Ben, ceux qui ne réussissaient pas, c'est qu'ils ne travaillaient pas. Et s'ils ne travaillaient pas, ben, ils faisaient autre chose. On a pris conscience de cette notion d'échec scolaire à partir de deux constats. D'abord, on a commencé à comprendre que lorsqu'un élève, quel que soit son âge, et ce que je vais dire est d'autant plus juste qu'on a affaire à de jeunes enfants, lorsqu'un élève est en difficulté, il n'est pas forcément seul responsable. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on prenne conscience qu'il y avait certainement des causes exogènes à la difficulté scolaire, qui tenaient à l'environnement social, économique, scolaire, etc. Et puis, il a fallu qu'on prenne conscience, que je disais au tout début, que cet échec, c'est-à-dire ou cette non-réussite de tous, était un facteur qui pesait sur l'ensemble de la société. Et c'est à partir de ce double constat, mais dans le fond qui est relativement récent, qui concerne les générations qui nous ont suivis, que cette notion d'échec scolaire est devenue un sujet, je dirais, de préoccupation pour les décideurs. Ce qui nous a aidé à prendre conscience de la situation, alors que nous avions de notre école plutôt une bonne image, qui d'ailleurs n'était pas totalement infondée, même si nous avions eu tendance à l'enjoliver un peu. Je crois qu'il faut, c'est le moment de dire qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or de notre école. Contrairement à une idée répandue, vous savez, dans le meilleur des cas, le certificat d'études primaires qui est présenté souvent comme, je dirais, l'alpha et l'oméga des générations précédentes, le maximum qu'on a obtenu, c'était 60% d'une génération. On n'est jamais allé au-delà. Mais c'est vrai qu'on a tous l'idée, la grande époque des hussards noirs de la République, d'une école. Et moi-même, vous avez fait allusion au fait que j'ai dirigé le cabinet d'un grand ministre de l'Éducation et d'un grand homme politique tout court, qui, mais je pense que vous voyez son style, avait l'habitude de dire, et c'était il y a une quinzaine d'années, nous avons la meilleure école du monde. Déjà, moi, son directeur de cabinet, j'essayais de lui faire comprendre que j'étais pas trop sûr que nous ayons bien la meilleure école du monde. Ce qui nous a pris, ce qui a permis de prendre conscience, c'est un peu, alors, même s'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que je vais dire, parce que, c'est les évaluations internationales. C'est-à-dire que quand on a commencé à essayer de comparer les systèmes entre eux, là, ça a quand même été un choc. Même si ce choc, on l'a pas aussi bien géré que d'autres. Alors c'est très curieux d'ailleurs, parce que cette notion de comparaison des systèmes éducatifs, si on veut faire un peu de cocorico, par contre, c'est un Français qui l'a inventé. Marc-Antoine Julien, en 1817. Alors vous voyez que ça ne date pas d'hier. Hein. Mais ça, c'est pour la partie historique, mon cher collègue. La réalité est différente. La réalité, c'est que c'est l'UNESCO qui, dans les années 50, a mis en place l'Institut d'évaluation des systèmes académiques, dont on l'a mis en place en 1961. Et cet IEA qui a pris tout de suite, qui a mis en place deux grandes évaluations qui existent toujours. PIRLS, qui mesure à la fin de la troisième année, je crois, la scolarité obligatoire, le niveau atteint par tous les élèves dans leur langue maternelle, et le TIMSS, qui fait la même chose en matière de sciences et de mathématiques. Mais la grande évaluation dont tout le monde a entendu parler ici, et qui maintenant, je dirais, fait régulièrement, non pas la une, mais enfin qui connaît une couverture médiatique importante, c'est l'évaluation mise en place par l'OCDE au milieu des années 90 et qui s'appelle PISA, Programme international de suivi des acquis des élèves. Le premier PISA ayant été mis en place en 2000 et qui concernait une trentaine de pays. Voilà, ces évaluations, qui donc était une première, je pense notamment à PISA, nous ont effectivement fait prendre conscience que notre école n'était certainement pas la meilleure école du monde. Par rapport à d'autres pays, et je pense notamment, et ceux qui connaissent bien le sujet voient à quoi je fais allusion, je pense à l'Allemagne, nos premières réactions n'ont pas été bonnes. C'est-à-dire que nous avons eu le réflexe assez classique dans notre pays de dire tout ça, c'est l'OCDE. D'abord, c'est pas fait pour nous. Les gros arguments que j'ai entendus, c'est fait pour les anglo-saxons. C'est-à-dire que les tests mis en place sont pas adaptés à notre culture, à notre mode de raisonnement. Intéressant comme réaction. Alors, il y a quelque chose qui nous a permis tout de suite de contredire cette vision des choses, et j'y fais allusion dans mon propos, c'est d'étudier des pays francophones et d'étudier des pays qui sont à la fois francophones et anglophones. Je pense naturellement à nos amis canadiens. Ça vient sous le sens. Alors, je pense aussi aux Belges, alors, non pas anglophones, mais néerlandophones et francophones, et je pense aux Suisses. Donc, l'argument de tests non adaptés aux petits Français est un argument qui a fait long feu, mais qui a été utilisé pendant quelques années. Je revendique immodestement le fait que c'est le Haut Conseil de l'évaluation de l'école que je présidais qui, en 2005, a rendu pour la première fois un premier avis en disant « Bon, écoutez, c'est pas sérieux de faire la politique de l'autruche ». Ces évaluations qui sont certes contestables, c'est pas, on n'est pas sur une discipline, on n'est pas sur de la physique, hein, on est sur une discipline qui quand même relève des sciences humaines. Ces évaluations qui sont certes contestables, d'abord elles ont le mérite d'exister, et elles nous disent des choses. Elles nous disent des choses qu'on ne peut pas ignorer, qui vont bien au-delà, je dirais, de la façon dont on se situe par rapport aux autres. Très honnêtement, lorsqu'on publie les résultats chaque année, tous les trois ans, l'évaluation, tout le monde se focalise pour savoir si on est 28e, 33e ou 21e, ce qui n'a pas de sens compte tenu des écarts-types. Ce qui est important, c'est de voir globalement comment on se situe, d'une façon générale, et surtout de voir la dynamique. Parce que ces évaluations elles ont plusieurs avantages. Premier avantage, c'est de comparer des compétences à des âges donnés. Leur deuxième avantage, c'est d'être effectivement, sinon universel, du moins de couvrir aujourd'hui un très grand nombre de pays. Mais surtout d'être productible, et c'est-à-dire de pouvoir être comparé dans le temps. Et pour moi, c'est... Ce que je vais vous dire dans quelques minutes, c'est très important. Ce qui me paraît important par rapport à notre école, c'est de voir aujourd'hui comment elle évolue. Voilà, petite histoire qui prouve bien que le sujet n'est pas simple. La dernière livraison de PISA qui ont été faites, c'était il y a quelques semaines, sur les sciences. Dans le week-end qui a précédé... J'ai été appelé par une journaliste d'une grande station de radio, certainement une des plus prestigieuses, je dirais, du panel des radios du pays, qui pensait que j'avais un scoop sur les résultats et qui souhaitait m'entendre. Je lui dis, ce qui était la réalité, c'est que je ne savais pas ce qui serait annoncé 48 heures après. Mais je lui ai dit, ce qui sera important d'étudier, c'est la dérivée. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si, en gros, on est sur une dérivée positive, négative ou nulle. Et au fur et à mesure que j'expliquais, j'ai bien senti un malaise au bout du fil. Et en fait, la journaliste ne comprenait pas ce que je voulais dire. J'ai vraiment compris. Il a fallu que j'explique ce que j'entendais par là. Et je lui ai dit... que j'ai espéré que la dérivée soit nulle, ce qui s'est passé d'ailleurs, mais il a vraiment fallu que j'argumente parce que j'avais face à moi quelqu'un qui ne comprenait pas ce que je voulais dire. Alors, là, à partir de là, on n'a pas, je veux dire, pris les mêmes réactions que nos voisins allemands, mais quand même, on a commencé à comprendre que la situation devenait préoccupante. Si on prend... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement le sujet, ces tests couvrent trois champs. La langue maternelle, le calcul et les sciences. Il se fait tous les trois ans. Tous les trois ans, on teste sur les trois domaines, langue maternelle, mathématiques, sciences. Mais tous les trois ans, il y a une dominante, une majeure et deux mineures. Donc, on a une vraie vision, je dirais, temporelle, avec un écart de 9 ans. J'insiste dès maintenant, et je le redirai plusieurs fois au cours de cet après-midi, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment lorsqu'on discute avec les hommes politiques. Je m'entretenais, bien entendu, avec mon ami Xavier, qui ne peut pas être là avec nous cet après-midi, le temps politique et le temps de l'école sont totalement incompatibles. Le temps de l'école est un temps long. Donc il faut 9 ans. Et moi, ce qui m'a le plus troublé, si je puis dire, c'est... Alors, j'étais aux affaires au moment du PISA 2000. J'étais plus aux affaires, en tout cas pas dans le même champ en 2009. Je dirigeais le Conservatoire des Arts et Métiers. Mais les PISA 2000 et 2009 permettent de comparer la maîtrise du français pour les enfants de 15 ans avec un intervalle de 9 ans. Là, on sait qu'on a quelque chose de fiable. Et d'ailleurs, entre 2003 et 2012, on a la même chose pour les mathématiques. Le français, maîtrise du français, 15% de très mauvais lecteurs. Alors après, on peut discuter, illettré, pas illettré. En gros, on considère en gros 5% d'illettrés. 2009, 20%. Donc en 9 ans, on passe de 15 à 20. Pour la petite histoire, la plupart des médias ont titré qu'on faisait 5% de plus. Ben oui, il a fallu que j'aille à France Culture un jour pour dire non, quand on passe de 15 à 20, on fait 33% de plus. Et ce qui n'est pas la même chose. Une dérive de 5% en 10 ans, c'est pas glorieux, mais ça peut, à la rigueur, s'accepter. Une dérive d'un tiers en 10 ans, c'est quand même plus préoccupant. D'autant plus qu'on a la même chose sur les mathématiques. 2003-2012, pareil. Là, on passe, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais pareil, on a une augmentation de 3-3%, on doit passer de... Attendez, que je les cherche. On passe de 16 à 22. C'est de 16% de mauvais élèves en calcul, qui ne maîtrisent pas les fondamentaux, à 15 ans. Hein, à 22%, ils ne maîtrisent pas. Donc on peut dire globalement, aujourd'hui, qu'au cours des années 2000, on a eu une dégradation certaine. Une dégradation certaine qui se traduit donc par une augmentation significative des élèves en grande difficulté, que ce soit sur la maîtrise de la langue ou la maîtrise du calcul. Alors, est-ce que ça a une incidence sur l'entrée dans la vie active ? Bien évidemment. Et il est intéressant de comparer ces évaluations sur la maîtrise des fondamentaux avec ce que j'appellerais pompeusement l'employabilité. Pour ça, on dispose d'un outil que je trouve excellent. Je suis pour rien, même si j'ai présidé l'institution pendant quelques années, qui est constitué par les études générationnelles du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Le CEREC, organisme scientifique, tous les 3 ans, là aussi, décidément, cette périodicité de 3 ans est bien utilisée, tous les 3 ans, prend une génération, ils prennent la génération qui sort, c'est-à-dire ceux qui quittent la formation initiale. Alors, ça devient de plus en plus compliqué à définir, mais on arrive encore à définir la fin de la formation initiale par l'élève, l'étudiant, enfin la personne qui reste un an sans s'inscrire ni dans un collège, ni dans un lycée, ni dans une université, dans une école. Donc quiconque reste un an hors de l'école est considéré comme ayant quitté l'école. Donc ça, c'est une génération qui sort. Globalement, on a 700 et quelques mille jeunes qui sortent chaque année de l'ensemble du système. Le CEREC a mis en place un dispositif qui est, je crois, fiable, je crois pas contesté, qui permet d'observer sur les 3 années qui suivent la fin de la scolarité comment se fait l'insertion dans la vie active. C'est intéressant. Tous les pays n'ont pas un outil de cette qualité. Pas de secret, pas de miracle. Alors, les sorties, globalement, même après si ça a évolué, je vais vous donner un truc mnémotechnique qui permet à peu près de se repérer et de ne pas dire trop de sottises, même si les choses bougent. Vous pouvez considérer que les gens qui sortent de l'école se divisent en 5 paquets. 5 paquets à peu près identiques. Je dis bien à peu près. 20% qui n'ont rien. 20% qui n'ont pas grand-chose. Le pas grand-chose, c'est en général un CAP ou un BEP. 20% qui ont un peu plus, c'est un baccalauréat. Quand ils sortent qu'avec le baccalauréat, c'est la plupart du temps un baccalauréat professionnel. Les autres ont autre chose. 20% qui ont un diplôme dit de bac plus 2. Dans notre pays, ça veut dire un BTS, un DUT, des choses comme ça. Et 20% qui ont un bac plus 3 et plus, donc licence, master, doctorat. Voilà. Alors, ces chiffres, ensuite, sont à moduler, à faire bouger, mais on a en gros ces 5 paquets-là. Et quand on regarde l'employabilité, on observe des écarts considérables. Et lorsque vous m'avez appelé, cher Michel, pour cette conférence, Tout de suite, je me suis dit, c'est effectivement le résultat de nos conversations au moment où nous étions au HCE. Le problème, c'est quand même ceux qui n'ont rien. Les 20% qui n'ont rien, alors qui sont aujourd'hui en train de réduire, posent un problème majeur à notre société. Le taux de chômage à 3 ans tourne autour de 40-50%. Le taux de chômage à 7 ans, puisque le CEREC aujourd'hui est capable de les suivre sur au moins 7 années, est à peine amélioré. Et le taux de chômage à 9 ans, puisqu'on a maintenant on a des études à 9 ans, n'est pas brillant non plus. Donc là, on a vraiment un noyau dur, taux très élevé, taux de chômage de ces jeunes, près de 4 fois supérieur au taux de chômage des gens qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, même si tous nos diplômes d'enseignement supérieur ne donnent pas les mêmes garanties d'insertion. Et ce taux de chômage, il est calculé sur ceux qui cherchent un emploi. Il rend compte d'une façon imparfaite du taux, je dirais, du taux d'activité. Aujourd'hui, l'OCDE a tendance à parler des nets, N2ET, ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. Aujourd'hui, sur la tranche de 15-25 ans, on a un taux de jeunes donc qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, qui est de 15%. Ce qui est un taux énorme. Un taux énorme qui est un des plus élevés des pays de l'OCDE. Et surtout, nous sommes un des rares pays de l'OCDE, je parle des grands pays, où ce taux ne diminue pas actuellement. Il n'a pas tendance à augmenter, ça suffit comme ça, mais au moins, il reste stable, alors que, quand on regarde les Allemands, les Anglais, etc., il a tendance à diminuer. Donc voilà, alors ça, il faut qu'on ait bien ça en tête. On est régulièrement pointé pour notre taux de chômage des jeunes élevé, et c'est vrai que nous avons un taux de chômage des jeunes élevé. Il est, quel que soit le contexte, depuis une trentaine d'années, le double le taux de chômage des jeunes est le double du taux de chômage de la population active. C'est-à-dire que quand la population active, quand on est en régime de plein emploi, est à 5%, le taux de chômage des jeunes est à 10, et quand le taux de la population active a un taux de chômage de 10, le taux de chômage des jeunes est de 20 ou plus. Mais surtout, alors vous allez me dire, c'est un raisonnement un peu particulier, il faut voir que dans ce taux de chômage qui nous met un peu au banc des grands pays développés, le poids apporté par les jeunes qui sont soit sans diplôme, soit avec un tout petit diplôme, est déterminant. C'est-à-dire que si on recalculait ce taux de chômage uniquement sur les gens qui sont diplômés, on aurait un taux de chômage qui serait sinon équivalent à celui des pays comparables, qui en tout cas en serait beaucoup moins éloigné qu'il en est. Tout ça pour vous dire que, vous allez me dire, fallait-il prendre 20 minutes pour nous dire ça, qu'aujourd'hui, enfin, si on fait le lien, il est facile à faire d'ailleurs, j'aurais dû le faire, entre le taux de jeunes qui maîtrisent mal les fondamentaux, lecture, écriture et calcul, et le taux de jeunes qui sortent sans diplôme, on s'aperçoit que ça se recoupe étrangement. Alors, d'une certaine façon, c'est rassurant. Je veux dire, intellectuellement, c'est rassurant de penser qu'il y a une corrélation très forte. C'est pas rassurant pour le bilan global, mais ça nous rassure sur, au moins, la fiabilité de nos chiffres. Donc on a bien, aujourd'hui, on peut considérer qu'on a ce que j'appelle l'échec lourd, concerne 20%. On a une population de 20% de jeunes qui quittent l'école autour de 18 ans, un petit peu avant, un petit peu après, sans rien. Donc après 8, 10, 10 ans de scolarité, et qui pèsent très très lourd, je dirais, sur nos statistiques. Sachant que ceux qui ont un petit peu plus, un CAP, c'est déjà mieux. Le rapport, le taux de chômage entre un titulaire de CAP et titulaire de rien du tout varie de 1 à 2, quand même. Intéressant à voir ça. Alors, Le bilan, il est celui-là. J'ai oublié de dire, même si c'est important, que ce 20% de chèques lourds, il est socialement extrêmement typé. Alors, c'est à manier avec précaution, parce qu'il ne faut pas que ce soit un alibi. C'est-à-dire après tout, les causes sont purement exogènes. Je pense qu'il y a des causes qui sont parfaitement endogènes au système. Mais ça aussi, ça explique aussi pourquoi c'est un problème qui est relativement mal traité, parce qu'il ne concerne pas du tout les décideurs. Les populations qui sont concernées sont des populations extrêmement marginalisées et périphériques. Alors, à partir de là, deuxième partie, comment réduire ce taux drastiquement, cher Michel? Pas facile. Si j'avais la recette miracle, je vous la donnerais, mais je pense que j'aurais été promis encore un plus brillant avenir. Mais on peut se poser plusieurs questions. Et on peut... Alors, les comparaisons internationales nous donnent des pistes, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on espérait, et je faisais allusion tout à l'heure à notre cher français révolutionnaire Marc-Antoine Julien, qui, en 1815, disait « Ah ben, quand on aura étudié tous les systèmes, on trouvera forcément le meilleur du monde ». C'est pas si simple. Les invariants de la réussite scolaire, quand on compare les pays, et notamment les pays qui sont devant nous, alors aujourd'hui, devant nous, vous en doutez, il y a une grosse partie de pays asiatiques, hein, Japon, Corée, etc., il y a le Canada, il y a vraiment les pays sûrs, le Canada, une partie de l'Europe du Nord, pas toutes, essentiellement la Finlande. Après, on arrive plutôt dans des eaux qui sont comparables aux nôtres. Mais quand on cherche les points communs, si vous trouvez le point commun entre le système japonais et le système canadien, vous me ferez signe. Moi, je l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé des choses, mais pas tant que ça. Donc, l'idée qu'il y a des invariants de la réussite scolaire est une idée qui n'est pas aussi évidente que ça. Néanmoins, on peut en dégager quelques-unes. Mais j'ai écrit dans mon papier quelque chose, vous allez me dire que c'est un peu angélique ce que j'ai écrit, mais je le crois profondément. Je pense qu'il est urgent de rétablir un certain climat de sérénité autour de l'école. C'est devenu un sujet de polémique violente, d'affrontement qui est un peu biaisé. Si on regarde, quand on regarde dans le détail, les politiques, quand on regarde d'abord quand on regarde les politiques qui sont menées depuis plusieurs années, quand on interroge les décideurs, quand on regarde, souvenez-vous, Michel, quand on regarde les différents rapports que le Parlement produit sur l'école depuis une dizaine d'années, que ça soit par les parlementaires de gauche ou des parlementaires de droite, ils disent pas des choses très différentes. Donc le consensus politique est beaucoup plus et bien plus important que n'est le débat médiatique, qui, lui, est extrêmement violent. Et je pense que la première chose à faire, si je devais m'adresser au futur ministre de l'Éducation, je lui dirais essayez, alors c'est pas facile, mais essayez de rétablir un climat un peu plus serein sur l'école, et en sachant qu'on ne fera pas bouger les choses si on ne rétablit pas un minimum de confiance dans le corps enseignant. Ça, c'est un préalable. Après, il faut partir de ce que l'on sait. Alors, ce qu'on a beaucoup appris, et ça va vous rappeler des souvenirs, là encore, cher Michel, c'est que c'est quand même au niveau de l'école primaire que tout se joue. Ça, c'est une avancée importante de ces dernières années, parce que, souvenez-vous, il n'est pas si éloigné le temps où le maillon faible était dit comme étant le collège. Et moi, je me souviens avoir encore vu des études d'opinion qui, il n'y a pas si longtemps, disaient qu'on avait la meilleure école primaire du monde, mais que c'était le collège qui dégradait la situation de l'école primaire. Aujourd'hui, on sait que ceci est faux, puisque on peut reprocher à notre collège de ne pas redresser la situation de l'école primaire, ou de le faire insuffisamment, mais l'échec scolaire lourd, ces fameux 20% d'élèves en grande difficulté à la fin du collège, ils étaient déjà 20% à la fin de l'école primaire. Donc c'est vraiment au niveau de l'école primaire, qui a longtemps été non évaluée, et cette affirmation pèse tout son sens, que se construit l'échec. Et de ce point de vue-là, si vous regardez bien, nos hommes politiques, tirer d'horizons divers depuis quelques années. Et je ne doute pas que dans les semaines qui viennent, quand on regardera les différents programmes politiques des futurs candidats à l'élection présidentielle, on trouvera partout la priorité à l'école primaire. Tout le monde maintenant est d'accord pour dire priorité à l'école primaire. Le dire est une chose, le faire en est une autre. Mais il y a au moins un consensus sur l'idée que c'est quand même là qu'il faut faire porter l'effort. J'ai envie de dire aussi que j'ai évoqué tout à l'heure le climat autour de l'école. Ce que je trouve qu'on a insuffisamment fait au cours des dernières années, c'est s'appuyer sur des forces fortement réformatrices au sein de l'école. On a vraiment trop tendance à mettre devant, je dirais, ceux qui crient le plus fort et qui sont des forces très conservatrices. Alors, je ne veux pas distribuer cet après-midi des brevets de réformisme, si je puis dire, mais je regarde mon collègue recteur actuel de la Commune de Paris, il ne me démentira pas si je dis qu'il y a au sein de l'école aujourd'hui, au sein du système scolaire, des organisations syndicales, associatives, etc., qui ont un véritable souci de faire bouger les choses. Même s'il y en a, effectivement, s'il y a des forces de rappel dont nous savons, lui et moi, qu'elles ne sont pas négligeables. Une des certitudes, j'ai dit que tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup de certitudes en regardant les évaluations internationales, on en a au moins deux qui pourraient être, enfin, qui ne devraient pas faire de contestation. Je crois qu'il est urgent d'avoir dans notre pays une évaluation qui soit vraiment indépendante. Aujourd'hui, l'évaluation du système telle qu'elle est faite, y compris par le ministère, qui n'est plus le mien, même si j'entretiens avec lui, vous en doutez, des relations qui sont extrêmement fortes, je ne doute absolument pas de l'honnêteté des évaluations qui sont produites. Mais elles sont suspectes. Elles sont suspectes parce que elles viennent de la maison elle-même. Et je crois qu'il est urgent, je sais là-dessus, ce constat est partagé par beaucoup de gens, de faire, comme dans la plupart des pays, d'avoir un organisme, comme c'est fait pour l'enseignement supérieur maintenant avec le HCERS, d'avoir un organisme qui puisse être considéré comme totalement indépendant. Alors, ça a évolué depuis la direction de l'évaluation donc mise en place par René Monory. Ensuite, il y a eu le HCE donc que j'ai présidé. Il y a eu le HCE où nous étions, Michel Pébrot et moi. Il y a maintenant le CNESCO. Chaque fois, on gagne un peu plus, je dirais, en indépendance. Il reste à franchir le pas, je crois, me semble-t-il, en tout cas, à créer une vraie haute autorité indépendante. Le deuxième consensus que nous apportent les évaluations internationales, la comparaison des systèmes, vous allez dire qu'il est difficilement contestable, c'est de penser quand même que tout ce qui concerne la formation des maîtres est quand même un point important. Difficile d'avoir un bon système éducatif si on n'a pas de bons maîtres. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, notre pays, à juste titre, a pris la décision, maintenant il y a plus de 20 ans, de quitter le système ancien des écoles normales qui fonctionnaient pour le premier degré, ou pour l'enseignement professionnel, qui ne fonctionnait pas d'ailleurs pour l'enseignement secondaire, et que depuis, on cherche un peu, il faut bien reconnaître que, bon, les UFM n'ont pas été la réussite qu'on pouvait espérer. Aujourd'hui, les ESP, les écoles supérieures, le professorat d'éducation, la direction est bonne, c'est-à-dire la plupart dans le monde entier ont fait former les maîtres par l'université. Bon, donc ça va dans le bon sens. Moi, ce que je constate, il y a parmi nous des universitaires, c'est que l'investissement des universitaires n'est pas pourrait être amélioré. Aujourd'hui, il y a quand même un déficit d'investissement des universitaires, notamment dans le secteur des sciences, qui, moi, me paraît préoccupant. Donc, je pense que la structure est bonne. Je pense que... Alors, pourquoi l'investissement est insuffisant? On ne va pas rentrer dans la cuisine universitaire, mais il y a un système aujourd'hui, je pense, d'évaluation et de promotion des enseignants du supérieur qui ne permet pas, qui n'incite pas à un investissement suffisant en matière de formation des maîtres. Après, il y a des mots que j'ai écrits sur mon papier qui font plus ou moins consensus ou qui sont plus ou moins sujets à polémique et auxquels je crois profondément. Bon, sans vouloir reprendre l'expression d'un ministre ancien, je pense à Claude Allègre, sur le mammouth. Je pense que tout le monde aujourd'hui pense qu'il faut avoir une gestion de proximité supérieure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus proche dans la gestion du système, de la réalité de terrain, que ça n'a été par le passé. Il n'y a pas trop de débat sur ce qui est déconcentration. Or, le ministère de l'Éducation nationale est beaucoup plus déconcentré, généralement, qu'on ne le pense. Moi, j'ai vu arriver plusieurs fois des fonctionnaires venant d'autres ministères avec une image de l'éducation et être très surpris de voir à quel point le système est déconcentré. Il est déconcentré, il peut l'être davantage, il est peu encore décentralisé, ce qui n'est pas la même chose. Et moi, je pense... Quand on fait le bilan depuis 1984, je suis à la retraite maintenant, mais j'ai tendance à penser que je suis encore en activité. Je dois être un des derniers à avoir exercé des responsabilités avant les lois de 1984 et après les lois de 1984. Et incontestablement, les lois de décentralisation ont apporté quelque chose en matière de gestion du système éducatif. Donc, pour ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire qu'il faut franchir une étape supplémentaire. Je constate d'ailleurs que la réforme qui a été faite récemment a créé 6 régions qui sont plus grandes que la Finlande. La Finlande, qui est souvent présentée comme un exemple, on a au moins 6 régions, je ne parle pas des petites, mais on a au moins 6 régions qui, dont la taille est supérieure à celle de la Finlande, où des solutions de ce type-là pourraient être expérimentées. C'est un sujet de... Alors, on est en train, si vous regardez beaucoup de programmes politiques en ce moment, dit des partis de gouvernement, vous voyez à quoi je fais allusion, pensent qu'il faut poursuivre la décentralisation de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la formation professionnelle continue, l'apprentissage a été passé entièrement en région. L'État a gardé la formation professionnelle initiale. Donc une des idées qu'on lit dans beaucoup de programmes, c'est de passer la formation professionnelle initiale aux régions. Pourquoi pas ? J'ai rien contre. Je ferai remarquer simplement que ça sera beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Parce qu'aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, les différentes voies professionnelles, technologiques et générales sont beaucoup plus mélangées qu'on veut bien croire. Et la question que je me pose, mais je reconnais que c'est un sujet qui peut provoquer un peu de crispation, c'est pourquoi on ne décentralise pas totalement. C'est-à-dire pourquoi on ne renforce pas le pouvoir des régions sur l'ensemble, en gardant bien sûr au niveau national tout ce qui concerne, je dirais, les objectifs, les programmes, etc. Mais tout ce qui est la gestion, et notamment la gestion des enseignants, je pense qu'on aurait tout intérêt à avoir une gestion qui soit plus de proximité qu'elle n'est. Ensuite, j'ai écrit un mot qui, alors là, je sais, déclenche tout de suite dans certains milieux une réaction hostile, et pourtant ce mot que je crois important, qui est autonomie. Je pense, alors j'y pense d'autant plus que je regarde Jean-Robert Pitt, que n'a-t-on pas entendu quand on disait qu'il fallait rendre les universités autonomes aujourd'hui, s'il fallait, sachant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, mais le peu important qui a été parcouru depuis maintenant la loi de Valérie Pécresse, je souhaite bien du plaisir à celui qui voudra revenir, celui ou celle qui voudrait revenir en arrière. Hein, pas évident. Donc, il ne s'agit pas, je dirais, de copier le modèle universitaire, de l'appliquer bêtement sur le système scolaire, mais il y a indéniablement, je dirais, plus d'autonomie à confier à nos établissements. Il faut qu'on sorte de cette idée que l'égalité crée l'égalité. Enfin, il faut voir d'où on vient, quand même. Je prends toujours un malin plaisir à rappeler, quand on a créé les zones d'éducation prioritaire, imaginez aujourd'hui un ministre de l'Éducation qui arriverait aux affaires et qui dirait qu'il supprime les zones d'éducation prioritaire. Il peut faire son carton dans le quart d'heure qui suit. Il passera pas le week-end suivant. Or, en 81, quand Alain Savary crée les zones d'éducation prioritaire, la plupart des organisations syndicales étaient convaincues que l'égalité de traitement conduisait à l'égalité de résultats. C'est pas, je vous parle pas de l'âge de pierre, je vous parle de quelque chose qui se fait il y a 30 ans. Il a fallu faire, il a fallu expliquer que c'était l'inégalité de traitement qui pouvait, le cas échéant, conduire à une meilleure homogénéité des résultats. Donc on revient de loin. Et aujourd'hui, l'idée que c'est l'égalité, je dirais, des horaires des profs et des horaires des... Enfin, que tout ce qui est égalitaire dans le système produit de l'égalité dans les résultats est une idée manifestement fausse. Et je suis convaincu, après une assez longue expérience de terrain et notamment de recteur, pour avoir vu une multitude d'établissements scolaires dans ma vie, collège et lycée, et même école, que plus on fait confiance au terrain, mais plus on a de chances d'avoir des résultats compatibles et en phase avec les élèves qui sont accueillis. Je crois à l'effet d'établissement. Je crois profondément à l'effet d'établissement. Et je ne crois pas que l'effet établissement, pour parler comme certains chercheurs en sciences humaines, soit la somme des effets maîtres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ils disent, mais non, c'est la somme des enseignants qui fait l'établissement. Non, non, l'effet établissement, il est dû à la fois à l'établissement, à son environnement, à son histoire, à sa gouvernance. Enfin, c'est un ensemble, et on sait très bien aujourd'hui, il suffit d'ailleurs de regarder nos comportements par rapport à nos enfants, que les établissements ne se ressemblent pas. Même s'ils se ressemblent a priori au niveau, je dirais, de leur architecture et des horaires. J'avance, je vois l'heure qui tourne, et j'arrive après à un point, alors ce que j'ai dit était déjà un sujet de polémique, mais le point suivant, alors lui, est un point extrêmement clivant, et pourtant, j'ai une vraie conviction là-dessus. On n'a pas tiré les conséquences structurelles de l'école obligatoire. On a une école obligatoire, donc, qui doit préparer à ce fameux socle commun. Depuis le début de l'après-midi, j'essaye de vous convaincre que c'est là que tout se joue, qu'on ne bâtira rien de sérieux si on n'a pas au préalable, je dirais, diminué de façon drastique cet échec lourd, donc si on n'a pas amélioré la maîtrise des fondamentaux. Or, tout ceci repose sur quatre types d'écoles, la maternelle, la primaire, le collège et un peu le début du lycée, avec deux types d'enseignants, mais qui enseignent dans des conditions extrêmement différentes. On est quand même un des rares pays, j'exagère de polémique, mais on est un des rares pays à avoir une formation commune pour les futurs maîtres de l'école du préélémentaire et de l'élémentaire, comme si enseigner à des enfants de 2 ou 3 ans, c'était la même chose qu'enseigner à des élèves de CM2. Beaucoup de pays font la différence, nous on ne fait pas de différence. Et c'est un peu le hasard des mutations, le hasard des affectations qui fait que, si on est une femme, d'ailleurs, on a d'autant plus de chances de se retrouver en maternelle que à l'école primaire. Pareil pour... Bon, on n'a pas tiré... les conséquences du collège en 74 avec un corps enseignant qui est formé de la même façon qu'il enseigne en sixième ou qu'il enseigne en terminale de lycée. Et je pense... Je sais que cette idée n'est pas partagée par tous, mais je pense qu'avoir des enseignants plus spécialisés sur le premier cycle de l'enseignement secondaire ne nous ferait pas de mal. On a accusé les PEGC dans les années 80 d'être responsables de la situation alors qu'ils ne l'étaient pas. Et je continue à penser que faire passer en un été, lorsque notre jeune enfant, ou garçon ou fille, passe du CM2 à l'école à la 6e, en théorie, alors c'est pas tout à fait vérité, mais en théorie, il passe d'un mètre unique à 12 mètres. Le choc me paraît quand même, surtout pour celui qui n'a pas les codes. On est toujours de pareil. Quand on est d'un milieu, favorisé, où on baigne dans une atmosphère, qui est une atmosphère où l'école a toute sa place, le choc est supporté. Il a été supporté pendant des années par des générations importantes d'étudiants issus de milieux favorisés. Je pense que c'est un facteur d'échec lourd pour les gens issus de... Alors qu'on pourrait expérimenter d'autres choses. On pourrait créer... J'appelle ça des mangroves, moi. Enfin, c'est ma culture ultramarine qui me fait utiliser le terme de mangrove, mais une mangrove, vous savez, on n'est ni sur la terre ni sur la mer. Enfin, on pourrait avoir des zones de mangrove entre l'école primaire et le collège, ou entre le collège et le lycée. Le maître unique à l'école primaire, c'est une aberration dès lors qu'il s'agit d'enseigner les langues vivantes. On pourrait utiliser les professeurs de langues vivantes à l'école primaire, au moins au CM1, au CM2. C'est pareil d'ailleurs pour l'éducation physique et sportive. Donc on pourrait avoir, et par contre, avoir quelques professeurs très polyvalents issus de, avec un profil professeur des écoles qui enseignent en 6e voire en 5e, ça va se faire. Je sais que ça se fait à titre expérimental. Il se fait beaucoup de choses à titre expérimental, mais souvent d'une façon un peu clandestine. Et dès lors qu'on veut l'officialiser, on déclenche tout de suite, je dirais, une levée de bouclier, alors que c'est des expérimentations qu'il faut mener et qui sont de pur bon sens. Et puis, je vais aborder, un peu à la fin, j'arrive à la fin, un sujet, là aussi, hautement sensible, pourtant, sur lequel, aujourd'hui, on y voit quand même clair. Pendant tout ce temps-là, il y a une discipline qui évolue, il y a un domaine qui évolue beaucoup, c'est les sciences cognitives. On sait de plus en plus de choses sur ce que sont les apprentissages. On a du mal à en tirer les conséquences. Alors, si je prends un sujet hautement polémique, l'apprentissage de la lecture déclenche tout de suite un dernier ouvrage qui est sorti récemment, qui disait pas que des choses, enfin, il disait des choses justes, des choses fausses, bon, enfin, peu importe, mais qui était un ton extrêmement violent. Donc, c'est un sujet qui, je veux dire, qui crée de la polémique, qui crée de l'angoisse, qui crée un débat fortement clivant. Aujourd'hui, les sciences cognitives nous disent des choses sur les apprentissages de la lecture. Je peux pas ne pas faire allusion, et il y a mon ami Laurent Cross dans la salle, je suis aujourd'hui engagé dans une opération qui s'appelle Agir pour l'école. Les gens d'Agir sont venus me voir il y a quelques années en me disant, écoutez, monsieur le recteur, nous, on sait aujourd'hui qu'il y a des méthodes d'apprentissage de la lecture qui fonctionnent. On s'inspire un petit peu de travaux qui ont été faits à Grenoble dans les années, au milieu des années 2000, et qui marchent. Fait par Zurman, et on a mis en place une méthode qui s'appelle Parler, qui est fondée donc sur les acquis, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je vous donnerai les références du site où vous pourrez trouver ça, sur les méthodes, on forme les enseignants, on met à la disposition des outils, on prend des volontaires bien sûr, et on regarde. Aujourd'hui, on peut considérer, sans vouloir être, je dirais, sans vouloir des formalités, qu'on est capable de montrer que ça marche. Toutes les expérimentations qui ont été menées par l'association Agir pour l'école et qui concernent toutes des zones défavorisées. Les quartiers nord de Marseille, Dunkerque, Villeneuve-la-Garenne, etc. Donc que des coins, zones sensibles, partout en l'espace de 2, 3 ans, 4 ans. Le taux d'échec lourd à la fin de l'école, à la fin du cycle d'apprentissage fondamental est divisé par 2. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, dans toutes les, il y a 400 classes qui sont engagées dans l'expérimentation. Dans ces 400 classes, qui sont des classes où le taux d'échec était au moins à 40%, sinon plus, on est revenu à la moyenne nationale. Donc, on peut dire aujourd'hui, on est capable de dire, sans risquer d'être démenti, qu'il y a des méthodes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Donc voilà, la balle est maintenant, je dirais, dans le camp des décideurs. Alors, il faut être parfaitement objectif. Pour l'association Agir pour l'école a rencontré d'abord Xavier Darcos, puis Luc Châtel, ensuite Vincent Payon, Najat Vallaud-Belkacem. On a eu chaque fois, et on a chaque fois, je dirais, le feu vert et aucune difficulté pour agir. La haute technostructure ou politique est conquise. On n'a pas trop de difficultés, on n'a même pas de difficultés du tout à trouver des enseignants volontaires et qui se rendent compte de tout l'intérêt qu'il y a à rentrer dans l'expérimentation. On a eu encore quelques difficultés, je dirais, avec la hiérarchie intermédiaire, qui est encore celle qui constitue, je dirais, les principales forces de rappel. Voilà. Il faut que je termine. Je terminerai par la partie professionnelle. Je vois que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, vous voyez bien, depuis le début où je veux en venir, il faut améliorer, et tant qu'on n'aura pas amélioré la maîtrise des fondamentaux, on aura des difficultés pour une partie importante de la population. Ceci étant dit, une fois qu'on a maîtrisé ça, il faut encore arriver à construire, au moins au tout début, une première qualification professionnelle. Longtemps, il y a eu un débat en France sur in vivo, in vitro, si je puis dire. Est-ce qu'il faut favoriser la formation professionnelle en milieu scolaire ou est-ce qu'il faut favoriser la formation professionnelle en situation de travail ? D'autres pays ont fait un choix. Nous, on a fait un autre choix très idéologique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un sujet de polémique qui a duré 30 ou 40 ans. J'ai envie de penser qu'aujourd'hui, ce débat, il est un peu derrière nous. Il est un peu derrière nous, d'abord parce que les faits sont têtus, comme disait l'autre, et que, surtout, c'est un peu d'ailleurs le paradoxe. C'est l'enseignement supérieur qui a donné ses lettres de noblesse à l'apprentissage. La réussite de l'enseignement supérieur, de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, d'une certaine façon, revalorise l'apprentissage, qu'il était déjà, je dirais, de par le contexte économique, mais presque revalorise trop, parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance, d'ailleurs, l'apprentissage se développe de façon très spectaculaire au niveau bac plus 2, bac plus 3, etc., et a plutôt tendance, alors pour des raisons diverses d'ailleurs, de regresser au niveau premier niveau, au niveau de CAP ou du baccalauréat professionnel. Alors que les deux ne doivent pas être opposés. Moi, je comprends parfaitement l'importance de remettre, de redévelopper l'apprentissage ou de développer profondément au premier niveau celui du CAP et du BEP. Mais je pense que ça serait pas sain de vouloir freiner, je dirais, l'enthousiasme de l'enseignement supérieur par ce mode d'enseignement. Donc là, on tient une piste. On la connaît, ça demande simplement, je dirais, d'abord une plus grande conviction des entreprises, et ça demande aussi un pilotage par les régions qui soit un peu plus efficace. Voilà, j'ai bien conscience là, que depuis quelques minutes, je vais très vite parce que je vais me faire gronder. Je vais conclure donc en disant la chose suivante. La question qui m'était posée, comment réduire drastiquement les sorties avec un faible niveau de formation. Je remercie d'ailleurs Michel Pébrot de ne pas avoir dit qualification. Ce qui n'est pas la même chose. Et de m'avoir bien, je dirais, forcé à venir sur le domaine de la formation plus que de la qualification. D'autant plus que, j'aurais dû le dire plus tôt, on paye très cher, encore aujourd'hui, quelque chose qu'on a fait dans notre pays en 69. En 69, et pour une fois, l'éducation nationale y est pour rien. C'est les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, quand ils ont défini les niveaux de qualification en 69, alors je vous rappelle qu'en 69, on était en plein emploi. On a découplé diplôme et qualification, au moins au premier niveau. Pas au niveau supérieur, mais au premier niveau, on a dit le niveau 5, on est qualifié au niveau 5, pourvu qu'on ait préparé le CAP. Et on est qualifié au niveau 4, pourvu qu'on ait préparé un bac. Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, c'est peut-être la même chose d'ailleurs. C'est peut-être la même chose quand on est en pleine croissance. C'est pas la même chose en France et aujourd'hui. Et ça, c'est le CEREC qui nous l'a montré. Pour moi, ça a été un choc au début de l'année 2000. Entre un niveau 5 garanti par la détention du CAP et un niveau 5 garanti par rien du tout, il y a un rapport de 1 à 2. C'est-à-dire que garanti par rien du tout, c'est rien. Et donc, il a fallu passer du zéro qualification au zéro diplôme. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait fait fausse route. S'il y a une erreur qui a été commise, je dirais, dans les années 80, en toute bonne foi, hein. Si vous regardez les lois de 84 et même la loi Jospin de 89, c'est ça, hein, elle dit pas de sortie sans qualification. Et comme les sorties sans qualification, par l'artifice que je viens d'évoquer, diminuaient, on pensait que tout allait bien, Madame la Marquise. Alors que les sorties sans diplôme, elles ne diminuaient pas, au contraire. Et c'est quand on s'est aperçu que les fausses qualifications qui n'étaient pas, enfin les qualifications qui ne s'appuyaient pas sur un diplôme, qu'on s'est aperçu effectivement qu'on était dans la situation que je viens de décrire, c'est-à-dire d'avoir un échec lourd de 20% insupportable. Donc déjà bien prendre conscience de ça. À partir de là, je vous ai dit, mesdames, messieurs, essayez de recréer du consensus, donc de créer un climat plus apaisé autour de l'école, créer une évaluation indépendante, déconcentrer, décentraliser, développer l'apprentissage, mettre de l'autonomie, faire confiance aux sciences cognitives, donc faire confiance à la recherche universitaire, impliquer davantage les universités dans la formation de ses maîtres. Voilà un beau programme pour un futur ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel, merci.